Et un des enjeux que je vois souvent, c'est pas que les gens, les couples que j'accompagne, c'est pas que les gens veulent être violents, mais c'est que ils ne savent pas comment exprimer ce qu'ils ont à dire.
On
Et là,
revient dans l'expression du besoin, en
la
fait.
communication. Et là, je dis souvent, c'est drôle, je fais un coup, il y a un exercice que je fais souvent avec un couple. Je dis, OK, qu'est-ce que tu as fait? Je prends un exemple concret. Qu'est-ce que tu as fait au moment où ça s'est passé? Il me dit, bah ouais, j'ai dit ça, et puis j'ai parlé, j'ai un peu élevé la voix. C'est sûr qu'à ce moment-là, on minimise souvent un peu ce qu'on a fait. J'ai un peu élevé la voix, j'ai fait ce qu'il dit, OK. Et là, je demande, c'est très intéressant quand les personnes, je dis, et qu'est-ce que toi tu as entendu? Il dit, bah, j'ai entendu qu'il était fâché, il était en colère. Ou elle était fâchée, ou elle était en colère. OK, qu'est-ce que tu as compris du message? J'ai rien compris, ça allait dans tous les sens. Tu vois? Et ça, c'est intéressant parce que plusieurs personnes communiquent. Comment je fais ça? Dans leur communication, ils communiquent leur émotion, leur frustration, mais ils ne communiquent pas le message, en fait, qui est à l'intérieur. Et donc, et quand on n'a pas appris à communiquer, c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un, c'est toi l'imbécile, c'est toi qui es responsable, c'est toi qui es ci, c'est toi qui es ça, au lieu de dire, chérie, je suis triste parce que j'aurais aimé que tu fasses telle chose, mais je vois que mais ça n'arrive pas. Donc, d'exprimer ses besoins, en fait. Et ça, c'est tout un travail avec des couples. Vraiment, tout un travail, ça me prend souvent beaucoup de temps pour qu'ils comprennent. Mais quand ils le voient, ça devient, c'est beau parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont une prise, en fait. Mais plusieurs ne le voient pas, en fait. Et ils ne le voient pas comme la violence, ils le voient comme un moyen de revendiquer ce qui leur est dû dans le couple. Donc, et revendiquer par tous les moyens, c'est-à-dire que, écoute, je t'ai dit ça deux fois, j'ai essayé deux fois de façon douce là, et puis maintenant, la troisième fois, ça suffit, là, tu vas m'entendre. Et puis, si ça ne change pas, ben, je vais passer par d'autres moyens, donc je vais vers une surenchère, en fait, de ce qui moi, je fais ça, de mots de plus en plus durs, et même, ça va même au niveau comportemental, hein, c'est pas juste des mots. Ça va être, ben, tu me parles, on parle souvent de l'agressivité passive, donc je te parle, tu me parles, je te réponds pas.
Rosita, si tu me permets,
Oui,
le documentaire qu'on voyait avant l'émission, c'était justement en caméra cachée, un homme qui a une femme qui agressait son homme. Et là, il y a des femmes qui ont pris la défense de l'homme. On aurait pu le passer, celui-là. Mais au moment où c'est la femme qui agresse l'homme, tout le monde se met à rire. Donc, on voit vraiment qu'il y a encore un changement de mentalité aussi. Donc, d'un côté, où on a l'habitude que ce sont les femmes qui sont maltraitées, d'un autre côté, comment on interprète ce rire moqueur-là?
je pense que la majorité d'entre nous, quand on voit ça, on se dit, mais non, c'est pas possible, mais voyons. Et c'est drôle parce que une des lectures que je faisais disait que les hommes, parfois, qui se font maltraiter, sont des hommes qui se font violenter, sont. C'est pas toujours les gens qui sont minces, qui n'ont pas de force, qui sont, comme on pourrait s'imaginer, on se dit, bah, ils font pas le poids. Mais des fois, ce sont des gens qui sont baraqués, qui sont solides et tout. Donc, et du coup, quand ça se passe, je suis dit, mais voyons, c'est pas possible. Si je reprends le contexte qu'avant, on m'a dit, mais non, c'est pas la petite femme là qui va quand même te menacer. C'est quoi ce truc-là? Tu es trop mou. Comment ça, tu te laisses faire? Donc, finalement, la responsabilité est reportée sur la personne. Et c'est très intéressant parce que ce sont des phénomènes qui ont été très documentés dans le cadre de la violence faite aux femmes, des dépendances, des femmes battues, en fait, qui ne partent pas. Donc, mais ce sont les mêmes mécanismes, en fait, qui se reproduisent même dans le cas où ce sont les hommes qui sont violentés. Donc, c'est pour ça que la violence, en fait, n'a pas de sexe. Donc, quand on la vit, c'est quasiment les mêmes mécanismes qu'on va regarder, qu'on va voir, qui vont se passer autant chez l'homme ou que chez la femme. Donc,
Rosita.
je pense qu'effectivement, on a, en tant que société, on a, je ne sais pas quand est-ce qu'on va réussir à le faire, mais on a beaucoup de travail parce que actuellement, quand je vois en fait ce qui se passe au Québec et peut-être ailleurs aussi, hein, où on met beaucoup de poids sur les hommes, donc. Oui, donc on ne peut pas dire que la société n'a pas été machiste, et peut-être qu'elle est encore, tu vois, par rapport aux emplois, par rapport à ci, par rapport à ça, mais actuellement, il y a un poids tellement énorme sur les épaules des hommes, où que je me dis, waouh, on ne leur a pas donné les outils pour être capable d'atteindre les attentes qu'on a maintenant sur eux.
Et je m'excuse en parlant d'attendre. Voici un commentaire que j'ai eu. La pression d'être un homme, hein. Il faut être beau, il faut avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille, il faut être bon en relation intime et surtout, il faut être le plus romantique de la planète.
Ouais.
Alors, dans quelle école ça s'apprend, ça?
Il y a une chose, c'est que généralement, quand on se retrouve dans les couples, là, quand ça parle, c'est ce que la femme, souvent, elle exprime, en fait, c'est tout ce qu'elle aimerait voir chez son homme. Par exemple, je vois Emmanuel qui dit être très de dernier de la planète, pourtant elle vit chez toi. Parfois, c'est juste une façon de te dire que essaie de te trouver un autre boulot, j'aime plus vivre dans cette maison. Donc, comment je vais expliquer ça? C'est peut-être ces frustrations, les frustrations de la femme qui sortent tout croche, oui. Où elle a essayé d'exprimer, mais elle ne se fait pas entendre. J'entendais un couple qui disait, une dame qui disait, oui, mais moi là, souvent je dis à mon mari, il ne m'écoute pas. Je lui dis, il ne m'écoute pas. Il en fait à sa tête. Ben, à ce moment-là, je monte d'un créneau.
Oui.
Parce que je n'ai pas envie que on se cogne la tête du mur et que toutes ces mauvaises décisions retombent sur nous. Donc là, je ne vais pas le laisser faire. Donc, je m'oppose violemment.
Ben,
mais elles seront 3-4 à dire la même chose et elles seront totalement d'accord d'être elles sont pour elles, elles ont bien fait, c'est comme
de
ça
pousser, de pousser. Et alors si à l'inverse, si c'est l'homme qui pousse comme ça là, donc qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Parfois la femme elle accepte,
parfois l'homme accepte aussi. Donc, mais je vais dire quelque chose. Bah oui, il y a des hommes qui acceptent. Il y a des hommes qui, c'est drôle. Bah, moi,
justement, avant que tu me dises ton truc,
oui.
Il y a aussi je sais pas si c'est une règle qui a été mise en place, donc oui. Surtout pour ceux qui viennent du christianisme et tout ça. Oui, que les hommes sont les chefs.
Okay.
Et ils doivent être respectés.
Ok.
Et que les hommes se nourrissent du respect. Donc, pour eux, les paroles sont... Pour eux, ils se nourrissent vraiment des paroles valorisantes. Bon, pas paroles valorisantes, comme je le dis là, mais ils se nourrissent vraiment du respect de leur femme. Du coup, ces paroles, les paroles dévalorisantes ou les insultes viennent les chercher beaucoup plus que... si on ne leur faisait pas à manger ou la maison était sale ou... Donc, bah, peut-être que ça vient de là.
Bah, c'est, premièrement, par rapport à ce que tu disais, que il y a les femmes qui acceptent. Quand je me retrouve aussi dans les groupes d'hommes, souvent, ils vont dire, bah, écoute, je l'ai fait ça parce que je veux pas qu'elle me donne les maux de tête. Tu vois, donc, il y a des hommes aussi qui plient. Et c'est un peu normal, c'est-à-dire que moi je pense que l'enjeu clé, et vraiment, parce que j'aime bien quand le fait que tu dises, elle dit, ben, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai redit. Comment tu l'as dit? Ça, c'est ce qui m'intéresse souvent, c'est comment je vais dire, ok, tu sais quoi, redis-moi, est-ce que tu peux lui redire devant moi comment tu le dis? Et puis là, elle va le dire, et tu vas voir que la façon dont ça va sortir, tu dis même, le message n'est pas, le message est soit le message est dit de façon à ce que ça mette l'autre dans une position de défensive tout de suite. Donc, écoute, tu attends quoi pour devenir aussi directeur comme tes amis? C'est quoi la demande? Donc, c'est quoi? Et là, je dis, ok, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il va dire, ok, je trouve qu'on a besoin de plus de revenus dans la famille. Et tout, ok, là, on comprend mieux. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est comment c'est dit. Et oui, il y a des hommes, effectivement, qui sont dans un système encore de, comment je dis ça, où, bon, oui, je commande, je fais ci, je fais ça. Mais ce qui se passe pour moi, les couples que j'ai et qui viennent même de traditions où, effectivement, c'est l'homme qui est le chef et puis c'est la femme, ben, lorsqu'on est capable de discuter et qu'on arrive sur les besoins, on se rend compte que même dans ces couples-là, en fait, personne ne veut être heureux malheureux dans son couple.
Bien sûr.
Vous voyez? Et lorsque les choses sont expliquées, que les besoins sont dits et entendus, ça facilite beaucoup la communication.
Non, ça, je suis d'accord.
Et je pense que c'est un des gros enjeux qu'on a en ce moment, c'est que nous n'avons pas été éduqués là-dessus. Même moi, à mon âge, je dois réapprendre à parler. J'ai eu un couple justement cette semaine et c'est drôle parce que là, je cogne vraiment le clou là-dessus. Hein, c'est le pli que le couple a, c'est de dire « tu as fait ci, tu n'as pas fait ci, tu ». Et là, je dis souvent « ok, quand tu dis ça, c'est quoi la réponse logique que l'autre va te donner ?» Bah, c'est sûr qu'il va se défendre, il va se justifier. Ok, très bien. Comment tu peux le dire autrement ? Donc, pour moi, ça, c'est un des enjeux, en fait. C'est que les gens ne savent plus communiquer en couple.
Moi, ce que j'aimerais qu'on... Là, on pousse. J'aimerais qu'on pousse. C'est que je pense que naturellement... Pas naturellement, mais les gens aiment, voudraient communiquer.
Oui.
OK.
Oui.
Maintenant, ce que... Et je pense que, comme souvent, les crises ou la violence peut-être devient plus exacerbée quand il y a des multifacteurs qui arrivent. C'est-à-dire, dans chaque jour, là, dans ma pression quotidienne, la gestion des enfants, la pression au travail, comment justement prendre le temps et le moment de justement communiquer, d'asseoir ça dans la pression quotidienne, là, quand on est tiré de tout part. Parce que souvent, c'est aussi, on va répondre violemment parce que c'est pas nécessairement le mari le conjoint qui nous fatigue, mais c'est tout le reste qui fait que finalement, on se décharge sur lui.
Bah, premièrement, il faut normaliser, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous voyez, quand on parle de violence psychologique, ça veut pas dire, virer fou, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas parce que la violence psychologique n'est pas à tous les coins. Mais ce qu'on dit généralement quand on parle de violence psychologique, c'est-à-dire c'est avec une intention. Quand il y a un rapport de pouvoir, c'est une intention de prendre du pouvoir sur la personne.
Okay.
Il y a vraiment quelque chose qui se joue là-dessus. Ça veut dire que si tu me dis quelque chose, c'est sûr qu'on vit avec des émotions, on est énervé, on est en colère, on est frustré. Donc, même si j'essaie de te dire quelque chose de façon douce, ça peut sortir de façon maladroite. Donc, ça, il faut normaliser, ça peut arriver. Mais ce qu'il faut quand même, quand on est dans une dynamique où on commence à se rendre compte que ça a un impact sur l'un ou l'autre des conjoints, là, c'est là où il faut aller traiter la chose. Et je pense que c'est très bien parce que quand tu faisais traiter la chose, il faut voir c'est quoi la source du problème. Donc là, par exemple, pour certains couples, la source du problème, ça va être on a du mal à se communiquer. Et quand on va creuser c'est quoi la communication, on va voir que je tape là-dessus aujourd'hui beaucoup, on va voir que les gens ont du mal à exprimer leurs besoins de façon audible par l'autre. Et deuxièmement, les gens ont du mal à gérer leurs émotions. Tu vois? Mais des fois, il arrive d'autres fois qu'on va se rendre compte que, OK, c'est une situation que le couple... je prends un exemple. J'avais un couple qui était vraiment dans une violence et puis la DPJ était dans le dossier et on avait failli enlever les enfants. Mais c'était quoi le problème? C'est que les deux, ils venaient d'avoir des jumeaux et ils venaient de débarquer ici sans réseau de soutien, sans parents, sans si. Donc, ils ne dormaient pas. À un moment donné, ils étaient dans un état de fatigue, ils faisaient en sorte qu'ils étaient juste irritables. Donc, c'était pas l'enjeu, c'était pas la communication. L'enjeu, c'était une pression que le couple avait et qu'ils avaient du mal à gérer à deux. Donc, et là, ça veut dire que la réponse à ça, la stratégie à ça ne va pas être la même que si c'est un enjeu de communication. Des fois aussi, ça arrive que c'est l'homme qui a perdu son emploi ou la femme qui a perdu son emploi, peu importe, et que là, il y a un stress financier qui arrive. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la majorité des divorces sont... La première cause de divorce, ce sont les problèmes financiers. Et donc, là, il y a des soucis financiers qui arrivent. Et qu'est-ce qui va se passer encore? C'est une pression extérieure qui arrive et que le couple a du mal à gérer. Donc, c'est clair qu'il faut d'abord repérer d'où vient la tension. Et c'est pour ça que dans le couple, il faut être honnête. C'est-à-dire, je dis souvent que vous ne rentrez pas dans le couple pour vous bagarrer ou pour autant en sortir. C'est-à-dire que tant que tu acceptes encore et que tu veux être dans le couple, il faut que tu sois honnête avec toi-même. C'est quoi les propres défis que j'ai par rapport à certaines choses? Et en nommant chacun ces défis, on est capable de trouver des solutions qui vont répondre aux besoins des deux. Mais si moi, je cache et ça arrive souvent, il y en a des gens qui me disent « Oui, moi, je ne peux pas dire parce que ça va être utilisé contre moi. » Et avec raison. Donc, et là, ça veut dire qu'il y a déjà aussi un dysfonctionnement du coup, parce que si je me mets à cacher et que je ne veux pas dire parce que je me bloque, bah, c'est quasiment certain que à un moment donné, ça va crasher. Ça veut dire que si je me rends compte de ça, il faut absolument, c'est drapeau rouge. Il faut absolument trouver un moyen de pouvoir défaire soi, soit aller consulter, soit, en tout cas, faites ce que vous voulez là, mais ne restez pas dans un tel état.
Laurence, est-ce que tu avais d'autres commentaires que tu avais reçus ou d'autres questions qui te venaient?
J'ai fermé ma page. J'étais partie à
Oh,
écouter maintenant. En tout cas, ce que j'entends déjà jusqu'ici, c'est vraiment que c'est particulier à chaque couple, en fait. Si on veut parler du couple, ou c'est particulier à chaque dynamique. On ne peut pas copier-coller une maltraitance d'une personne à l'autre, en fait. Il y a
non.
vraiment des causes qui sont différentes et qui doivent se régler différemment.
Parfait.
Effectivement, effectivement. Donc, mais pour revenir au sujet du jour, c'est quand même important que les hommes sachent, effectivement, ils peuvent vivre de la violence, peuvent être victimes de violence, et que, comment dire ça? Pareillement, c'est-à-dire autant qu'on donne des moyens aux femmes pour pouvoir sortir du cycle de violence, autant effectivement il faut qu'eux aussi puissent prendre les moyens. D'autant plus que, et ça, heureusement, c'est pas la plus grande partie des autant, quand on parle de violence faites aux femmes, c'est pas la plus grande partie des hommes qui font ces violences-là. La même chose quand on va parler des violences faites aux hommes, c'est pas la plus grande partie qui vivent ça. Mais quand même, il y a des femmes qui sont mal intentionnées de la même façon qu'il y a des hommes qui sont mal intentionnés. Donc, il y a des femmes où dans des dossiers dans lesquels j'étais, où la femme, en arrivant ici, savait exactement qu'elle ne voulait pas rester avec le monsieur. Elle, en arrivant, elle s'est renseignée sur les meilleures façons de faire ça. Et elle savait que bah, si je fais ça, je fais ça, et que je le pousse à bout, et qu'il fait juste quelque chose, bah, je vais pouvoir avoir la garde exclusive des enfants, avoir un. Comment dire ça? Un jugement qui l'interdit d'approcher les enfants, avoir de la pension alimentaire. Et en plus, je suis débarrassé de lui, je peux refaire ma vie. Vous voyez? Donc, ça existe et il faut le savoir. Donc, si je suis un homme, et ça, c'est souvent ce que j'ai trop vu, en fait, des hommes qui n'étaient pas conscients de ça et qui laissaient juste les choses couler et à un moment donné, se retrouvaient dans une espèce de dynamique impossible. Donc, ça existe, des femmes autant que des hommes qui sont mal intentionnés. Donc, il faut savoir repérer rapidement, ne pas se retrouver dans une situation où on est violenté, où on est maltraité, où finalement on sort de là, on est complètement détruit.
Est-ce que tu aurais oui, chouchou. Est-ce que tu aurais deux ou trois éléments qui permettraient qu'un homme reconnaisse quand il est en violent? Tu as parlé de contrôle. Est-ce que tu as d'autres choses comme ça que quelqu'un pourrait identifier rapidement pour ça, pour réaliser qu'il est justement violenté?
Bah, je pense qu'il y a eu, on a parlé tout à l'heure de la dimension de chantage. Quand on sent qu'on est dans un rapport où l'autre, comment je veux dire ça, essaie d'avoir du pouvoir sur nous. Donc, soit par du chantage comme ça, ou par. Mais là, quand même, il faut faire attention parce qu'une des choses que j'ai vu, que je vois souvent et dont les hommes se plaignent souvent, bah, je vais parler de la question de l'intimité. Ils vont dire oui, bah, il me fait le chantage parce que si on a un problème, elle ne veut pas avoir du sexe. Bon, ce n'est pas toujours ça. Donc, il faut quand même faire attention. Mais il y a une notion de chantage. Vraiment, dans la violence psychologique, il y a une notion de jeu de pouvoir. Donc, ça, c'est une des choses, la dimension du contrôle. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est vraiment, comment dire ça? Ce que je dis toujours dans toutes les problématiques de santé mentale, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir une espèce de thermomètre intérieur. Ça veut dire que quand je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui je trouve ça, je me pose la question, je trouve pas ça normal, elle m'insulte souvent, elle me rabaisse, c'est du déni et tout ça. Quand je trouve que mon alarme intérieure s'allume et que je commence à réagir, parce que des fois on va réagir, ça peut être réagir physiquement ou même réagir, mais ne rien dire, donc juste être là, mais garder ça intérieurement. Ça me dit déjà qu'il faut que j'aille vérifier ce qui se passe. Donc, et si je peux aller vérifier et me rendre compte que, ben, effectivement, c'est peut-être moi qui ai du mal à gérer mes émotions, ou bien c'est quelque chose à travailler dans le couple dynamique, ou me rendre compte qu'effectivement, je suis dans un cas de violence. Et c'est pas parce que je suis dans un cas de violence que ça veut nécessairement dire que je suis maltraité ou que je dois quitter ma femme. Il y a des choses qui s'arrangent, en fait. Il faut juste pouvoir nommer le problème, pouvoir le dire. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment le. En santé mentale, c'est souvent les deux éléments qu'on apporte. C'est à quel point est-ce que ça te génère de la détresse ou de l'inconfort ou ça te dérange. Et puis, à quel point est-ce que ça a un impact sur un des domaines de ta vie. Donc, je me rends compte que ça me génère de la détresse. En plus, ça a un impact sur mon couple ou sur mon travail aussi. Je dois faire attention. Drapeau orange, là, il faut que je puisse en parler à quelqu'un pour aller valider un peu. Je pense aussi que l'autre chose qu'on peut faire, parce que je ne peux pas citer tout là, mais peut-être aller lire sur le sujet. Je pense que ça, c'est la meilleure des choses qu'on peut se donner parce que en lisant, il y a des choses qui vont résonner en nous. Ça nous permet d'avoir aussi une connaissance et même peut-être de pouvoir en parler avec notre femme. Mais est-ce que tu sais que tel, j'ai lu ça ou ça? Bon, c'est pas le temps de l'utiliser là quand on est dans une dispute. Parce que des fois, on fait souvent ça. De toute façon, c'est la violence conjugale. J'ai lu ça dans l'autre jour, dans le truc. C'est pas le moment. Mais dans un moment calme où justement, où on partage tout, on me dit ah bah tiens, chérie, j'ai lu un truc intéressant. Et puis, parfois, de commencer par son propre mea culpa. Hein, donc, je me suis rendu compte quand j'étais dit telle chose, bah, ça peut vraiment t'affecter, ça peut te faire du mal. Donc, voilà, tout simplement.
Parfait. Et juste avant de terminer, deux minutes, qu'est-ce que tu penses des groupes de parole ou des groupes d'amis? Parce que je sais qu'il y a des hommes qui utilisent vraiment leur groupe d'amis pour aller prendre une bière, discuter. Ils veulent pas être avec leur femme. Ils veulent vraiment prendre le temps entre amis de discuter et de pouvoir évacuer tout ce. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là?
C'est une stratégie qui est aussi souvent plus utilisé par les femmes, mais peut-être pas autour d'une bière. Et est-ce qu'on leur dit souvent, que ce soit dans le cas de la résolution de conflits ou bien tout simplement pour leur propre état de santé mentale, on dit souvent que assurez-vous que ce n'est pas de la rumination. Donc, il faut que mon indice quand je vais sortir de là, c'est à quel point ça m'a fait du bien et que ça me permet d'aller améliorer la situation à la maison. Si je me rends compte que ça m'a fait ruminer, que les gens disent « Ah, mais tu as vu ça. Ah, mais non, elle te fait ça. Eh, mais regarde, il y a telle chose. » Et là, tu ressors encore plus gonflé. Attends, laisse-moi arriver à la maison. Je vais aller acheter ça. C'est sûr que ce n'est pas bon du tout.
Donc, parce que des fois, ça devient aussi toxique. Oui, là où tu veux juste te ventiler, tu vas te faire dire que ce n'est pas normal. Il franchit trop les lignes. T'as pas… Voilà, quoi. La personne que tu voulais juste ventiler et puis c'est comme si tu te retrouves avec le méchant que tu dois à tout prix supprimer de ta vie, quoi.
C'est ça. Donc, ventiler, c'est très, très bon de parler en groupe. Et je pense que c'est pour ça que les groupes de soutien sont bons. Ils sont très bons à condition. C'est toujours qui est dans le groupe de soutien et qu'est-ce qui se dit dans le groupe de soutien. Et est-ce que le groupe de soutien est assez lucide pour dire on est dans une perspective de progression commune, donc de développement commun. Ou est-ce qu'on est juste là dans pour faire des commentaires de ce que j'appelle souvent des commentaires de bar. Donc, juste balancer des choses comme ça. Et puis, finalement, on ressort de là, on n'a rien appris. On n'a rien résolu. Peut-être même on est encore plus embrouillé que lorsqu'on est arrivé. Donc, et il y a des groupes. Moi, j'ai vu autant des groupes qui étaient positifs que des groupes qui venaient renforcer des stéréotypes. Ils disaient, mais non, tu dois pas te… Tu dois pas, et ça fait mal dans les deux sens. Parce que… Si, par exemple, moi, je suis un homme qui vit de la violence et que j'exprime ça, et qu'on me dit « Non, tu ne dois pas te marcher sur les pieds. Non, c'est l'homme qui doit commander. L'homme, c'est… » Bon, premièrement, ça me pousse moi-même. Il me craint là, aller répondre par la violence à la maison. Ou alors, si je n'ai pas envie de faire ça, je vais encore me sentir stigmatisé de dire « Ah ben, je vais me fermer. La prochaine fois, je ne vais pas en parler. Je vais juste écouter les autres. » Donc, dans un sens ou dans l'autre, ce n'est pas bon, mais… Ça passe par la sensibilisation encore. Donc, il faut au moins un leader. C'est pour ça que dans les groupes, il y a souvent un leader, quelqu'un qui soit assez, bon, je ne sais pas, assez grande gueule et puis sage pour dire les vraies choses et puis et aider le groupe à avancer.
En tout cas, super. Laurence, est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous écoutent? Non.
Non, c'est toujours un sujet à creuser. Il y aura toujours des choses à dire. C'est délicat parce que on fait attention de ne pas généraliser Mais en même temps, voilà, on est obligé de marcher comme ça sur des œufs et de généraliser un peu. Mais voilà, je pense que c'était un bel échange.
Je voulais dire un truc par rapport à. Il y a quelque chose que Laurence a dit tantôt, qui disait la remarque que tu as reçue de l'homme qui dit bah, je dois être beau, je dois être performant au lit, je dois. Et c'est drôle parce que j'écoutais une vidéo d'une femme qui parlait du coût, de ce que ça coûte à une femme d'être en relation. Et elle disait bah, avant la relation, quand je vais à un rendez-vous galant là, il faut que je dois payer des produits pour me maquiller, mes cheveux, il faut, sinon ça me coûte cher. Et après ça, une fois que je suis à l'intérieur du mariage, ben, c'est mon corps que je vais donner, je vais faire la ménage, je vais faire ci, ça va me coûter ci. Et puis, ce ne sont pas des tâches qui sont du tout valorisées. Et puis, mon mari s'attend à ce que je sois belle. Donc là encore, il faut que je dépense sur mes produits, machin, machin. Et puis, et là, il dit encore, et si il arrive que je me sépare, ben lui, il a pu poursuivre sa carrière. Moi, pas nécessairement, parce qu'il fallait que je garde les enfants et tout ça. Donc, finalement, en tout cas, sa conclusion, c'était de dire, sur toute la ligne, la femme est perdante au niveau financier. Et ça se tient. Et là, je me suis dit, ben, laisse-moi un peu penser. Mais l'homme, là, quand il doit aller à un rendez-vous galant, s'il veut vraiment la femme, il peut pas s'habiller en babouche, là, du Maroc et puis s'amener, je sais pas moi, avec un t-shirt débraillé. Puis, il faut quand même qu'il. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que. Se mettre en couple, ça a un coût pour tout le monde. Ça a un coût. Et une fois qu'on est dedans, c'est sûr que pour sortir des éternelles querelles de qui fait quoi, moi je dis souvent que une des choses qui est, mais bon, mal, tout le monde ne l'a pas, mais on travaille quand même pour sensibiliser les gens là-dessus, c'est que si mon partenaire n'est pas heureux, c'est sûr que je ne vais pas être heureux. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que je peux dire oui, bah, ça, je peux bien faire le malin comme je veux, mais c'est sûr, ça va toujours me revenir comme des problèmes. Là, je serai toujours insatisfait. Et donc, finalement, ça va affecter ma propre santé mentale, affecter mon couple. Je vais peut-être aller vouloir ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment ça le style de vie que tu veux? Donc, et du coup, ça change un peu de perspective, parce que si je veux que mon partenaire soit heureux, je vais faire des efforts. Mais c'est pas évident de faire des efforts. Mais donc ça, c'est pour dire, mais ça coûte à tout le monde.
Dans les deux sens.
Dans les deux sens, oui.
Génial.
Dans certains couples, ça coûte plus à certains qu'à d'autres.
En tout cas, ça coûte de se mettre en couple, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de travailler sur son couple, sur sa communication. C'est ce que j'entends, hein. Apprendre à communiquer, apprendre à verbaliser, à mettre des mots, à utiliser des mots, à bien les utiliser aussi. Donc, et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Yannick l'a dit. Pardon, vous pouvez faire des recherches. Oui.
Ma plus grande joie, c'est quand je rencontre des couples qui arrivent pour la première fois, ils se regardent, les fauteuils sont comme ça pour qu'ils puissent se regarder, ils tournent les fauteuils pour ne pas se regarder, et puis là, pendant 2-3 heures, ils s'engueulent, et puis et là, quand tu les revois, après 2-3 séances, 4 séances, tu vois la complicité, tu vois qu'ils se tiennent la main, tu dis waouh, ça c'est ma plus grande joie, c'est pour dire dans le sens que tu pousses un peu dans ce que tu dis, que ça existe. En fait, on est capable de pouvoir se faire aider vraiment pour devenir un couple qui communique mieux, qui s'entend mieux, qui s'arrive mieux. Et c'est tellement simple, mais souvent, la majorité des gens ne viendront pas, en fait, à prendre cette aide-là. Et puis, dans un pays où les aînés ont de moins en moins de place, parce que les aînés jouaient ce rôle-là, ils jouaient ce rôle de sagesse, de pouvoir se dire, bah, fais comme ça, fais ceci, de temporiser un peu. Dans un monde où les aînés ont de moins en moins de place, où ils sont moins en moins écoutés, parce qu'on se dit que, bah, voilà, on n'a pas besoin d'eux, on est moderne, puis on fait nos propres choix. Enfin, je vois beaucoup de couples qui souffrent. Je n'ai pas dit pour rien, mais je veux dire, bon, ça pourrait être autrement, en fait. Il y a des solutions. Rosita, le son.
C'est ça, je répétais ce que tu disais. Ça pourrait être autrement. Nous avons la capacité aussi au sein de Mail Humaine de consulter. Vous pouvez nous consulter pour 15-20 minutes. Juste pour être sûr de ce que vous vivez. Et puis, nous, on peut vous aiguiller, vous donner des ressources aussi pour vous accompagner. Si ce n'est pas nous, mais on peut quand même vous guider vers des ressources. Il n'y a pas beaucoup de ressources pour les hommes, mais c'est important de nous appeler. Comme ça, nous, en regardant ce que vous vivez, on est capable de vous dire, OK, peut-être tel organisme ou tel professionnel serait plus adapté pour vous. Et bien entendu, chez nous aussi, on en a. Hein? on a quand même plusieurs professionnels. Et ça nous fera vraiment plaisir de vous accompagner dans ce que vous vivez. Voilà, on a terminé. Hein. Je ne sais pas si Yannick a une annonce. Nous, de notre côté, la semaine prochaine, c'est Focus École. On a un webinaire qui sera organisé, destiné aux écoles. Comment encadrer et enseigner sans s'épuiser. On parle toujours d'épuisement professionnel. À part ça, on a plein de beaux projets qui s'en viennent, donc restez connectés à nos pages, réseaux sociaux. On va bientôt se lancer sur Instagram, on a fait des petits tests aujourd'hui, donc ça s'en vient, on sera sur ces réseaux sociaux aussi. On a commencé avec les podcasts, donc pour ceux qui aiment faire la vaisselle en écoutant les lives, vous pouvez aussi nous retrouver sur diverses plateformes. Et puis moi, c'est Rosita, hein, animatrice. Laurence aussi, notre fidèle, pas fidèle, je vais pas dire fidèle, notre animatrice, on va dire la baronne et la doyenne, voilà, c'est ça. Et bien sûr, Yannick, le directeur de MyLumen, psychoéducateur de formation. Et voilà, on est là pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Et toujours prenez soin de vous, éclairez le monde une personne à la fois.
La fois.
Bye.